Alors, c'est vrai que François d'Assise, c'est sans doute le saint catholique le plus universellement apprécié. Hein, j'ai rarement entendu des gens... Si, on connaît, mais enfin, on trouve de tout. Mais je veux dire, c'est rare quand même que quelqu'un ait quelque chose contre François d'Assise, peut-être entre autres raisons, parce que c'est celui qui est au sens premier, hein, il n'y a pas d'allusion ecclésiastique, mais au sens premier peut-être le plus évangélique, celui qui essaie, qui manifeste la vie évangélique, je dirais, de la manière la plus radicale. Il me semble qu'il a touché des chrétiens de toute confession. Catholique, ça va de soi. Protestant, ça va de soi. Beaucoup de non-chrétiens qui en font une grande sympathie aussi, hein, pour François d'Assise. Et je pense qu'il est une des personnes qui a fait le mieux sentir, au fond, que vivre l'évangile était possible. Que c'est pas juste quelque chose de, voilà, extraordinaire, c'est Jésus tout seul, en quelque sorte. Mais on peut aller, on peut le mettre en pratique en quelque sorte. C'est quelqu'un, l'inspiration fondamentale de François d'Assise, c'est prendre, j'ai envie de dire, les mots mêmes de Jésus, de l'évangile, et les mettre en pratique. Alors, c'est vrai que souvent on dit, au fond, François d'Assise, ce qui reste, c'est sa vie. Le reste, il y a quelques petits textes, bon, enfin rien de très sérieux. Alors, c'est vrai que je pense que ce qu'il a laissé de plus beau, c'est sa vie, sûrement, et sa légende, il y a les deux, hein. Mais en même temps, il y a un ensemble de textes, et cet ensemble de textes montre qu'il y a une spiritualité, qu'il y a une théologie, qu'il y a une pensée, qu'il y a une densité de la spiritualité franciscaine qui dépasse de loin le côté romantique, sympa, bien agréable de sa vie, donc ça mérite qu'on s'y attarde, parce que c'est beaucoup plus riche que ce qu'on imagine souvent. Alors, peut-être pour commencer, quand même quelques mots, quelques bons petits mots, sur la vie de François. D'abord, il faut remettre peut-être en perspective, je sais bien que le Moyen-Âge vous est tout à fait familier, mais il faut peut-être remettre en perspective quand même ce qui se passe à ce moment-là, parce que il a un point commun avec nous, je crois, c'est qu'il se situe à un tournant de civilisation. Le monde change au moment où François d'Assise arrive. Vous savez, il y a l'ordre médiéval. L'ordre médiéval, on pourrait dire, c'est toute cette période qui correspond si bien à la structure bénédictine. Hein, c'est, vous avez les seigneurs, les châteaux, les serres, et tout se passe au fond de manière assez statique et assez stable. Et toute la tradition monastique d'avant, hein, celle de Saint-Benoît, celle de Ligue, le Chartreux dont on a parlé tout à l'heure, donc des Chartreux, des Cisterciens, etc., c'est des grands monastères qui souvent sont aussi, pour les bénédictins, des grands propriétaires aussi. Hein. Et la civilisation entière s'est construite en bonne partie avec ça, parce que les moines étaient à la fois... des moines dans leur monastère, mais aussi des gens qui cultivaient, qui apportaient la civilisation, qui cultivaient la terre, etc. Et là, le monde change, et on va se trouver devant un monde de marchands, un monde de circulation, un monde d'échange, un monde où les voyages deviennent beaucoup plus simples, où le poids des seigneurs diminue, et le poids des villes augmente. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, au passage, que François est le fils d'un marchand. Marchand drapier, mais grand marchand drapier, qui va d'un pays à l'autre. Et au fond, avec François, comme avec Dominique, son contemporain, hein, qui va donner les Dominicains, les ordres mendiants, donc les franciscains et les dominicains, mais il y en a d'autres aussi, vont finalement peu à peu répondre à une situation historique nouvelle. On va plus être dans les grands monastères qui sont aussi des grands propriétaires, mais ça va être des gens qui vont eux aussi, sans avoir énormément d'argent, et même dans certains cas dans la plus grande pauvreté, vivre au sein des villes, se déplacer, annoncer l'évangile en allant un peu partout. Alors il naît en 1182, et François est le fils d'un riche marchand drapier de la ville d'Assise. Et alors, il a une jeunesse dorée. C'est un riche bourgeois, sympathique, et peut-être un peu plus grand quand même aussi, je dirais, comme quand on est un riche bourgeois, à la fois brillant, plein d'argent quand même, hein, ça compte pour les relations qu'on peut avoir autour de soi. Et il est un peu l'âme de la jeunesse dorée de la ville d'Assise. Quand je dis l'âme, c'est pas l'âme au sens de la spiritualité la plus forte, hein, mais je dirais celui qui va donner un peu le ton, il va se faire remarquer par sa fantaisie, par son talent de poète, par son goût de la fête, par sa générosité, etc. Et alors, comme souvent, ce riche bourgeois, on verra qu'il y en a d'autres, hein, rêve de chevalerie. Ce qui n'est pas noble, quand même. Hein. Et alors, quand on est riche, on aimerait bien être noble aussi. Quand on est fils de marchand de rapier, on aimerait bien être chevalier. Et il va y avoir la guerre. Il y a des guerres, là, alors, tout un tas d'ensemble, entre ceux qui sont pour le pape, ceux qui sont pour l'empereur. Les villes sont elles-mêmes en tension. Et il va y avoir la guerre entre Assise et Pérouse. Et là, il va partir, il rêve de chevalerie, il va partir comme chevalier. Il ne va pas beaucoup se battre, pour être tout à fait honnête. L'ennui, c'est qu'il va être fait prisonnier. Il va rester prisonnier un bon moment, et avec beaucoup d'autres. Et après sa libération, il semble qu'il ait connu une assez longue période de dépression. La lutte va reprendre, il va repartir, il n'ira pas très loin. Il tombe malade. Et puis, il semble qu'il ait eu une vision qui l'incita à se tourner vers Dieu. Il rentre à Assise, il renonce à ses ambitions de chevalerie, et dans l'attente de quelque chose, il va se consacrer aux soins des pauvres et à la prière. C'est à ce moment-là, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont légendaires dans l'image de François d'Assise, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont tout à fait historiques. Et là, on est dans l'historique complet. Ce que je vous raconte, c'est de l'historique. Le légendaire est très intéressant à voir aussi, mais voilà, c'est pas la même chose. Et là, ça va être sa rencontre célèbre avec un lépreux. Il descend de cheval, il lui donne un denier, et il embrasse la main du lépreux. Et il va commencer à les soigner. Et là, c'est le deuxième texte. Non, pas du tout. Pardon. Mais j'ai pas dû vous le donner, celui-là. Et voilà ce qu'il écrit. Alors, c'est dans le testament de Saint François. Voici comment le Seigneur me donna à moi, frère François, la grâce de commencer à faire pénitence. Quand j'étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m'était insupportable. Mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, et je les soignais de tout mon cœur. Et quand je les quittais, ce qui m'avait semblé amer s'était changé pour moi en douceur pour l'esprit et pour le corps. Ensuite, j'attendis que et je dis adieu au monde. Alors, un peu plus tard, alors qu'il priait dans la petite église de Saint-Damien, vous savez, devant le grand crucifix byzantin, s'il y a un crucifix byzantin que vous avez vu dans votre existence, c'est forcément celui-là. Hein? Voilà, malheureusement, je n'ai pas l'image. Vous voyez sûrement ce crucifix, donc, avec un Christ peint sur ce crucifix. Je me suis toujours demandé, je me suis dit quand même, le brave homme qui a peint ce crucifix et qui sans doute, je suppose, était bien persuadé qu'il peignait un crucifix pour une petite église italienne, j'imagine, hein. S'il avait su la postérité de son crucifix et le nombre de reproductions qu'il avait curé dans le monde, c'était impressionnant. Et alors il est en train de prier devant ce crucifix et il entend la voix du Christ qui lui parle. Et cette voix lui dit, va et répare ma maison qui croule. Alors vous savez, quand on entend une parole, c'est même vrai dans la Bible, mais c'est vrai je crois ailleurs, c'est une chose de l'entendre, c'est une autre chose de la comprendre. Hein? Et là il la prend littéralement, il dit c'est vrai que cette église elle est mal en point, on va se mettre au boulot pour la remettre d'aplomb. Alors il va vendre des étoffes. Vous me direz, c'était agréable, il était fils de marchand de drapier et les étoffes étaient à son père. Pas les siennes. Il vend des étoffes, il prend de l'argent, il vend son cheval et avec cet argent, il achète des choses et il travaille à la réparation de la chapelle. Et il va commencer à vivre avec le vieux prêtre là. L'avantage, c'est que pendant ce temps-là, son père était en voyage commercial. Retour du père. Pas content le père. Il avait une mère absolument charmante. Je pense que c'est parce qu'on pense qu'elle était française. Donc voilà. crois que c'est pour ça. Mais le père, apparemment, c'était un dur à cuire. Et le père, il n'a pas apprécié du tout que la sainteté de son fils se fasse sur sa caisse à lui. Donc, sa barde, il le fait enfermer. Et à l'époque, c'est quand même... Mais il est libéré par sa maman. Et il repart à Saint-Damien. Retour du père, nouveau conflit. Et alors, il se passe là aussi un truc assez étonnant. Le père se plaint devant un tribunal de l'évêque. Au fond, il dit, c'est une honte, mon fils a gaspillé mon argent, je demande donc à récupérer mes sous. Vous imaginez un peu l'ambiance, sympathique. Et alors là, François fait quelque chose d'assez étonnant. Il se déshabille. Vous savez, il y a des prophètes qui faisaient des trucs, et c'est un peu ça. Il déshabille, il jette ses vêtements aux pieds de son père, et puis il dit, voilà, écoutez-moi tous et comprenez, jusqu'ici j'ai appelé Pierre Bernardone mon père, mais maintenant je puis dire notre père qui êtes aux cieux. Et l'évêque met son manteau sur, quand même, sur les épaules de François, je pense en partie par pudeur, et aussi pour montrer que finalement il accueillait en quelque sorte et il prenait François sous sa protection. Alors il repart à Saint-Damien et il travaille à la construction de la chapelle en mendiant pour les pierres sous les railleries de ses anciens compagnons. Vous imaginez la personne qui était un peu le dandy de la ville, que tout le monde connaît, que tous les jeunes connaissent, qui maintenant se met à mendier pour réparer une chapelle. Et puis après, il va réparer d'autres églises, dont Sainte-Marie des Anges, qui était toute petite, alors on l'appelait la portion cul, et qui va avoir une place, on pourrait dire, énorme dans l'histoire. Et il va commencer à vivre dans ce lieu isolé, et c'est là que le 24 février 1209, comme souvent, hein, je vous rappelle, le pèlerin russe, il avait entendu la parole prier sans cesse, mais là c'est pareil. Il n'entend pas une voix qui tombe du ciel, hein, comme la voix tout à l'heure, c'était la voix qui venait du crucifix en quelque sorte. Là non, pas du tout, il entend une prédication tout bête par le prêtre. Et la prédication dit, allez donc et prêchez en disant le royaume des cieux est proche, n'ayez dans vos ceintures ni or, ni argent, ni monnaie, pas de besace pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite son salaire. Vous savez, c'est Jésus qui envoie ses disciples. Alors il enlève ses souliers, il remplace sa ceinture par une corde, son manteau par le capuchon de laine des paysans de l'époque, et il commence à prêcher la repentance. Et assez rapidement, il a un tel charisme, et je crois que le charisme naturel là, qu'il avait en tant que leader de la jeunesse dorée de la ville, une fois que le Saint-Esprit s'y met, se transforme aussi en charisme naturel et moins naturel. Mais au fond, sa parole a un impact énorme et des gens commencent à le suivre. Des anciens amis, des pas amis, des nobles, des paysans. Et ils vont commencer à partir deux par deux pour prêcher l'évangile. Et au fond, là, ça va être la naissance d'un mouvement énorme qui va chambouler le christianisme. Quelque chose vraiment extrêmement important. Et très rapidement, cette petite communauté, elle va grandir. Alors la communauté, elle va gagner sa vie par le travail ou la mendicité en acceptant que des dons en nature. C'est-à-dire, pas question, on respecte à la lettre l'enseignement de Jésus là dans cet envoi, hein, et pas question d'avoir des propriétés, pas question de faire de l'argent. Et à l'époque, l'Église était quand même un énorme propriétaire. Hein. Et je dis ça au passage, c'est très important parce que l'Église était tellement riche qu'il y avait eu beaucoup de réactions très négatives. Peu de temps avant, il y avait eu les Vaudois, pas les Vaudois du canton de Vaud, mais les Vaudois du Piémont. Hein. Avec Pierre Valdo, on ne sait pas si ça s'appelait vraiment Pierre, mais bon, c'est pas grave. Des gens qui ont réagi un peu de la même manière. Valdo lui-même, marchand, aussi dans les, je crois bien, drapiers, si je crois bien, du côté de Lyon, et qui va déclencher tout un mouvement dans le même esprit que François. Sauf que la critique de l'Église est très radicale, ils vont être persécutés, ça va donner toute l'histoire des Vaudois. Les Cathares vont critiquer aussi de la même manière la richesse de l'Église. Donc, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Donc, cette pauvreté, c'est une sorte de contrepoids, en quelque sorte, à toutes ces critiques qui peuvent arriver, et à toute cette pathologie de l'Église, pour laquelle il n'est pas nécessaire d'être grand théologien ni extrêmement intelligent pour voir qu'entre la parole de l'Évangile et la réalité sociologique, sociale, économique de l'Église, il y avait comme un léger problème. La différence avec les autres, c'est que François aime l'Église et qu'il a compris que ce « restaure mon Église » qui se casse la figure, c'était peut-être bien restaurer telle ou telle petite chapelle, mais c'est peut-être plus fondamental que ça. C'est peut-être l'Église du Christ. Alors pour lui, l'Église catholique, ça va de soi, hein, qui a besoin d'être remis d'aplomb. Donc il va effectivement travailler à ça. Ces gens qui suivent François soignent les lépreux, prêchent et consacrent le reste du temps à la prière. Plus tard, ils vont aller à Rome pour se faire reconnaître, pour justement éviter de devenir encore un de ces mouvements un peu marginaux qui seront persécutés, etc., mais être reconnu comme une nouvelle forme d'ordre religieux par l'Église. Ils vont être reconnus par le pape, et des hommes de toutes sortes vont suivre cette fraternité. Ces gens, on va les appeler les petits frères, c'est-à-dire les frères mineurs. Alors vous savez que les ordres catholiques envoyaient un livre qui est écrit par un religieux catholique. En général, après le nom, vous avez toujours des initiales compliquées, difficiles à comprendre. Quand vous voyez un franciscain, c'est toujours OFM, hein, ordre des frères mineurs, ça veut dire tout bêtement des petits frères. Et cet ordre des petits frères va se développer, et va se développer autrement. Il va y avoir très vite, autour de Claire d'Assise, qui est une amie de François, qui va devenir aussi, je dirais, et une grande sainte et une grande fondatrice, le second ordre qui va se créer, c'est les Clarisses, c'est les franciscains féminins, si je veux dire. C'est l'ordre à côté. Et puis il va y avoir un troisième ordre qui va se développer, qu'on va appeler le tiers-ordre franciscain. C'est une communauté de prêtres, de laïcs, d'hommes, de femmes, de gens célibataires, de gens mariés, qui vont être dans la vie de tous les jours, qui vont être rois, Saint Louis faisait partie de ce tiers-ordre, hein, qui vont être marchands, qui vont être seigneurs, qui vont être ouvriers, et qui vont essayer de vivre de l'inspiration franciscaine dans la vie de tous les jours. Donc vous voyez, un développement qui touche énormément de gens. La fraternité va se répandre en Europe, et petit à petit, elle doit un peu se structurer, s'organiser. Et donc, tous les ans, il y a un chapitre, c'est-à-dire le rassemblement des frères à la portion Q, vous savez, cette petite église qui a vu la naissance de la communauté, et qui va rassembler tous les frères. En 1217, c'est-à-dire très peu de temps après le début, il rassemble déjà 5000 frères. Vous voyez, c'est un peu une traînée de poudre. Mais ça se passe, je dirais, un peu toujours comme ça, hein. Quand il y a un mouvement spirituel, mais les réveils se passent de la même manière, mais voilà. Quand il y a un mouvement spirituel qui colle à un besoin, qui colle à une époque, qui est vraiment, je dirais, une réponse à quelque chose, alors ça part comme une traînée de poudre. Et en général, les gens qui sont dedans sont d'un enthousiasme fou, pensant que la fin des temps est proche et que, voilà, ça va continuer comme ça, et ça continue jamais comme ça. Et le problème, c'est juste après. Et pour les franciscains, si je dis ça, c'est parce que pour les franciscains, le problème va être juste après le virage, un tout petit peu plus loin. Vous savez que... et donc, les provinces, il y a des provinces, forcément, il faut mettre un peu d'ordre là-dedans, et sont dirigées par des ministres. Ministres, ça fait sérieux, mais c'est surtout pas des ministres. Ça veut dire des serviteurs. On oublie quelquefois, hein, en France en tout cas, mais peut-être aussi chez vous, que les ministres sont d'abord des serviteurs. C'est le mot, simplement pour serviteur. Et alors, c'est le temps des croisades. Tout n'est pas rose quand même à l'époque. Et avec quelques frères, il va se rendre en Terre Sainte. Et il va se rendre compte d'abord que les premiers qui ont besoin d'être convertis, c'est les croisés. Les croisés, c'est certainement des glorieux chevaliers qui viennent délivrer le tombeau du Christ. C'est aussi d'abominables soudards qui pillent, etc. Il y a de tout dans les croisés, hein, comme un peu partout. Donc il va d'abord prêcher aux croisés, et puis il va se rendre, et ça c'est quelque chose de formidable, il va traverser les lignes et il va aller voir le sultan. C'est la guerre, hein. On est en train de s'oxyre mutuellement avec beaucoup d'enthousiasme, hein. Et donc ces deux petits moignons là, en guenille, qui traversent, on se dit mais ils sont complètement tombés sur la tête. D'abord on se dit c'est des traîtres, après on se dit bon ils sont sûrement pas traîtres, ils sont trop bêtes pour être traîtres, hein, ça doit être une forme de sainteté. Bon. Donc voilà, il va rencontrer le sultan pour parler avec le sultan et pour lui annoncer l'évangile. C'est quand même autre chose que de massacrer joyeusement les musulmans qui passent. Et il va rencontrer le sultan. Et dans cet entretien, il va y avoir un entretien très sympathique. Finalement, malheureusement, au grand regret de François, le sultan ne va pas se convertir. C'est pas facile de se convertir quand même quand on est le sultan, le chef des musulmans, et que vous avez toutes les armées en face qui sont prêtes à vous massacrer. Ça fait réfléchir, ça fait un certain point, je dirais, ça rend les choses un peu difficiles. Donc ils vont revenir. D'autres frères étaient allés au Maroc, dans la même idée, dans le même esprit, et eux, ils vont trouver le martyr. Peut-être qu'ils n'avaient pas les qualités, le rayonnement de François. Il revient dans les lignes croisées, on le laisse repartir, les musulmans le laissent repartir, et il va y avoir la prise de Damiette, grand moment de la croisade, abominable moment, accompagné de massacres, de pillages de la part des croisés. François est malheureux, écœuré, malade physiquement, il va attraper énormément de choses là-bas, en particulier des problèmes aux yeux, il va être sa santé est bousillée à partir de ce moment-là. Et finalement, il revient. Et il apprend que, dans son ordre, c'est le bazar. C'est-à-dire que l'ordre était énorme, je vous ai dit. Hein, déjà 5000 personnes, il continue à se développer. Et quand vous avez des 5000 personnes, quand vous avez un immense succès, ben vous avez de tout. Vous avez des gens qui sont d'admirables disciples de François. Et puis finalement, c'est tentant d'appartenir à un ordre important. Et puis il faut que les dons de chacun se manifestent. Et il y a des gens qui ont des dons d'organisation. Et donc c'est bien que ces gens qui ont des dons d'organisation organisent. Et donc on va faire un peu comme dans les autres ordres. On va structurer les choses. Et puis il y a des gens qui vont avoir... Oh, c'est pas du pouvoir, certes pas. C'est le service des frères. Mais enfin, un service quand même. Et il se passe dans cet ordre ce qui se passe partout. En gros. Dès que quelque chose est très important, je dirais, la tentation est grande. Et vous avez des gens... à qui François avait fait confiance, qui en fait sont en train de transformer doucement les franciscains en un ordre bien classique, avec une belle structure bien hiérarchique, avec un beau pouvoir bien affirmé, avec de l'argent à l'occasion, etc. Donc c'est la vision même de François qui est remise en cause. Il faut reconnaître que tout le monde n'a pas tous les dons. Et que François a un génie spirituel, et pour être honnête, il est franchement nul en organisation. Ce qui me le rendrait plutôt sympathique. Mais c'est vrai que quand il y a un moment spirituel, si la même personne est douée pour l'un et pour l'autre, ça aide. Hein, pensez à Wesley, on en parlera plus tard. Pensez à Wesley, qui est à la fois un immense prédicateur, n'empêche que c'est un génial organisateur. Ben, quand même, ça évite un certain nombre de problèmes. François, il évite rien, là, il connaîtra tous ses problèmes. Il va avoir un long temps de souffrance. L'impression, au fond, que tout fout le camp, que Dieu l'a abandonné d'une certaine manière. Que tout ce qu'il a mis sur pied, qu'il avait l'impression de voir le Saint-Esprit à l'œuvre, on dirait presque, voilà, c'était l'évidence même, puis il s'aperçoit que tout ça, c'est en train de basculer. Alors, il va rentrer... en Italie, il change un certain nombre de responsables, il rédige une nouvelle règle, mais c'est qu'il avait confié complètement les clés de la maison à un certain nombre de personnes. C'est plus lui le responsable, institutionnellement. Moralement, il est une icône. Et vous savez, les meilleures icônes sont celles qui ne parlent pas. Hein, vous savez, voilà, François comme référence symbolique, c'était la perfection. François venant remettre, c'était pas toujours très agréable, et au fond, certains lui font comprendre que, voilà, il est gentil, mais que, à chaque chose en son temps, que son temps est passé. Et donc, il va passer tout un temps extrêmement douloureux. Il va s'isoler, avec trois compagnons, hein, selon la règle, sur une colline, avec des grottes isolées, la montagne de l'Alverne, qui lui avait été donnée 10 ans plus tôt, et c'était une montagne italienne dans laquelle il y a des grottes, et finalement c'était un lieu de retraite, on pourrait dire, hein, où régulièrement ils allaient là. Là, il va avoir un temps de prière extrêmement fort, il va recevoir les stigmates, donc il va avoir dans son corps, je sais bien, pour les protestants, c'est pas la partie la plus facile, accrochez-vous un peu, il va recevoir les signes, au fond, les marques des clous, en quelque sorte, du Christ. Il y a une identification à Jésus-Christ chez lui qui est extrêmement, extrêmement forte. Il est extrêmement malade, pratiquement aveugle, il revient ensuite à la portion clou, dans le porte, hein, et il devait s'éteindre peu après avoir ajouté une strophe sur notre sœur la mort, au cantique des créatures, vous allez voir des textes magnifiques. Donc voilà, une vie tout à fait étonnante. Alors il y a des biographies autant que vous en voulez. Vous en avez des vieilles, des nouvelles, des bonnes, des mauvaises, des légendaires, des historiques, etc. Mais ne mourrez pas avant d'avoir lu une biographie de Saint-Joseph. Parce que c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable. Et c'est quelqu'un, je dirais, qui a la sainteté communicative. Il y a des gens qu'on admire de loin, il y a des gens qu'on a envie de suivre, je trouve. Et François est tout à fait de ce genre-là. Alors on ne va pas développer ça. Simplement, maintenant je voudrais qu'on creuse un peu la spiritualité de François d'Assise. S'il fallait résumer cette spiritualité en trois mots, une formule en trois mots, peut-être que ça rappellera à l'occasion quelque chose à certains, moi je dirais joie, pauvreté et miséricorde. Le premier point, c'est la joie. Le premier point, c'est ce qu'on pourrait appeler la louange émerveillée. Toute la spiritualité de François est comme centrée sur la louange. Lui qui a connu des difficultés, lui qui a connu la maladie, lui qui a connu la souffrance, non seulement physique, très forte, hein, mais la souffrance morale. Je vous dis, quand vous avez toute votre œuvre qui donne l'impression de partir comme ça, je crois que François a connu des temps de nuit. On parlera de la nuit avec Jean de la Croix, mais je crois qu'il a connu de manière très forte des temps de nuit. Eh bien, cet homme a été avant tout un homme de prière et un homme de communion avec Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Dieu qui est au centre de la piété de François. Vous allez me dire, ça ne m'étonne pas, mais oui, quand même. Il y a des gens pour qui le centre, c'est le Christ. Hein? Là, non, c'est Dieu dans sa puissance, c'est Dieu dans sa majesté, c'est Dieu dans sa gloire, dans sa bonté, etc. Il parle sans cesse du Père. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait vraiment des prières à Jésus-Christ dans les œuvres de François. Je vérifie, mais s'il y en a, en tout cas, c'est infiniment minoritaire. Il parle sans cesse du Père, du Seigneur, très haut et tout puissant. Et alors quand vous lisez, on va voir, hein, quand vous lisez certaines prières, ça fleure bon le Moyen-Âge, hein, en même temps c'est très, très beau, hein. Le Seigneur très haut et très puissant, et c'est vers ce Père que l'oriente ce Jésus dont il est, dont il veut être le disciple radical. Il y a une communion intime avec le Christ qui est la communion du disciple à son maître. Il l'imite. Et il veut l'imiter de manière radicale. Il aime l'incarnation. Et c'est lui qui va développer cette pratique des crèches de Noël. Pour revivre, finalement, la nativité et pour la faire vivre et la faire participer aux gens, je dirais, de manière visible. Et devant Dieu, c'est la louange qu'il exprime. Et c'est aussi, ça c'est un point tout à fait important, la louange de la création tout entière. Il prêche aux oiseaux. Il prêche à la création. Il est persuadé que le Saint-Esprit, que Dieu peut parler, que l'Évangile a quelque chose à dire, que Dieu a quelque chose à dire à la création dans sa totalité. Alors il y a des légendes avec le loup du Gubbio. Il va, je ne dirais pas qu'il va convertir un loup, mais presque quand même. Et il va surtout, je crois, vraiment, ça paraît avoir une racine historique, il ne va pas forcément convertir le loup, mais je crois qu'il va convertir les paysans qui voulaient tuer le loup. Il va en tout cas sauver le loup. Mais il va inviter les oiseaux à louer leur créateur. Et alors on connaît cette prière magnifique qui est dans le texte que je vous ai mis, c'est la deuxième. Hein. On reviendra sur le premier texte plus tard. et c'est le cantique des créatures, et c'est quand même un texte génial, je crois. Très haut, tout puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction. À toi seul il convient, ô Très haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, Seigneur, dans toutes tes créatures, spécialement Messire Fer Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et pour les nuages, et pour l'azur calme, et tous les temps par lesquels tu donnes, soutiens toute créature. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les airs. Voilà, ça c'est la fin, je dirais, de la première rédaction. Ça, c'est la louange cosmique. Hein? Et il me semble que là, il y a quelque chose de très, j'allais dire, très moderne. Oui, je ne sais pas, mais le fait de prendre conscience que Dieu est créateur et que la louange, ce n'est pas simplement « Seigneur, je te loue parce que tu m'as sauvé ». C'est sympa, tu vois, c'est bien de dire merci. Mais il n'y a pas que ça. C'est le monde dans sa totalité. C'est l'herbe, c'est l'air, c'est tous les dons de Dieu et toute la création de Dieu. Et puis, cette prière qui va l'accompagner très longtemps, il va, au fil du temps, rajouter un certain nombre d'autres choses. Et il va apprendre qu'il y a des conflits entre l'évêque d'Assise, je crois, et je ne sais plus qui. Et là, il va rajouter un paragraphe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car pour toi, par toi, très haut, ils seront couronnés. Et puis après, il est mourant. Et à la fin de sa vie, il va rajouter ça. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en état de péché mortel, heureux ce qu'elle surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Louez et bénissez, mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Voilà, ça aussi c'est le genre de texte qu'on peut méditer, on a largement de quoi. Et je crois que cette louange, elle est comme le point d'orgue de la spiritualité franciscaine. Vous voyez, louange pour les choses magnifiques, mais aussi pour le reste. Pour la réconciliation des hommes entre eux, ça on y reviendra tout à l'heure. Mais louange pour notre sœur la mort, louange malgré, louange aussi bien parce que, et quelquefois je crois louange malgré tout. Et sans rien atténuer de la réalité du mal, du péché, il y a chez François, je trouve, comme une jubilation de la grâce et de l'amour de Dieu qui transfigure toute la vie et qui transfigure le monde. Et quand on lit les textes de François, c'est quelque chose de très fort. Et quand on lit les légendes autour de François, c'est encore plus fort. Alors, premier point, donc, cette joie, cette louange. Deuxième point fondamental, c'est dame pauvreté. Le riche bourgeois s'est fait pauvre. Le riche bourgeois s'est fait pauvre par amour du Christ pauvre. Le Christ qui n'a pas une pierre pour reposer sa tête. Au fond, il veut suivre nu le Christ nu. Et il va parler avec amour de dame pauvreté. C'est que derrière elle, derrière cette pauvreté qu'il chérit, qu'il recherche, dont il a bien conscience qu'elle n'est pas si simple, et que ses frères ont toujours tendance à l'acclimater, il sait que finalement il suffit de pas grand chose pour que quelques années plus tard on soit comme tout le monde et on soit bien confortablement installé. C'est que derrière la pauvreté, c'est l'esprit d'enfance qui est présent. C'est cette entière liberté, c'est cette parfaite disponibilité à Dieu dont il veut faire le cœur de la fraternité. Et il va lutter longtemps et douloureusement pour que son ordre reste pauvre contrairement aux autres ordres. Et c'est pas simple parce que personne ne le veut vraiment, je crois. Ni une bonne partie des frères. Il va y avoir des bagarres à l'intérieur des frères entre les fidèles entre les fidèles de François qui vont même en rajouter peut-être, et de l'autre côté ceux qui veulent une règle mitigée, ceux qui veulent adoucir, rendre plus humain. plus modérés, plus réalistes, plus normaux, etc. Mais l'Église elle-même, elle n'est pas très chaude au fond. Parce qu'à la fois, je pense que l'Église, elle est tiraillée là. D'un côté, avoir des gens qui sont des fidèles serviteurs de l'Église et qui sont très pauvres, c'est très sympa quand même, parce que ça montre qu'on peut vivre ça sans être contre l'Église. Mais en même temps, cette sainteté en guenille, dans une église en or, c'est quand même un jugement d'une certaine manière. Donc finalement, s'ils étaient gentiment pauvres, modérément pauvres, pas trop, quoi, ça arrangerait tout le monde. Ce qui fait qu'il doit se battre pour essayer de maintenir cette pauvreté. Être pauvre, pour lui, c'est faire confiance au Père. C'est prendre l'évangile à la lettre, tout bêtement. Hein. Le Père qui prend soin de nous. Ne pas l'être, c'est accumuler les assurances, les protections humaines. Vous voyez que c'est tout à fait quelque chose qui est de son temps, qui n'a rien à voir avec le nôtre. Hein. Et je pense quand même, plaisanterie mise à part, je pense quand même que, exactement comme à l'époque, autrefois finalement, plus tôt, avant, je crois que cette dimension, l'argent avait une place relativement moindre. C'est quand le commerce se développe que l'argent devient quelque chose de fondamental. Et j'ai envie de dire que dans notre monde de consommation à tout va, hein, ce type de message probablement... Aujourd'hui, comme au temps de François, une pertinence peut être encore plus grande qu'il y a un certain temps. Et puis, il y a autre chose. On retrouve chez lui cette saveur évangélique, les mots mêmes de Jésus, mais c'est que la pauvreté, chez François, elle est en rapport avec l'amour. Et puis une autre chose un peu plus inattendue, elle est en rapport avec la non-violence. Il disait ceci à l'évêque d'Assise, « Si nous possédions des biens, il nous faudrait des armes pour les protéger. Car c'est de la propriété que proviennent les contestations et les chicanes. Et c'est par là que l'amour de Dieu et du prochain est le plus souvent violé. C'est pourquoi nous ne voulons avoir nulle propriété en ce monde. » Je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais j'ai vu dans pas mal de familles, c'est souvent autour des questions d'héritage, souvent des questions d'argent que les conflits naissent. Si vous n'avez pas d'argent, vous avez votre problème, mais vous n'avez pas celui-là. En général, rarement, il y a des conflits quand il n'y a pas d'argent. Et en même temps, François est le contraire de naïf. J'ai l'impression que la sainteté aiguise l'intelligence. Je suis persuadé qu'un saint idiot n'est pas vraiment un saint. Je veux dire, par là, je crois que le Saint-Esprit... Là, je plaisante. Pas vraiment, pas complètement. Je crois que le Saint-Esprit rend lucide. Hein, donne du discernement. Et François sait bien que on peut être parfaitement pauvre et parfaitement pharisien. Hein, si je manifeste ma pauvreté, etc. Il sait que les choses sont plus complexes que ça et que la vraie pauvreté est intérieure. Et alors, il commente ainsi la première béatitude. Il y a une série de textes, des admonitions, ça s'appelle. Et on a appelé ça le serment sur la montagne de François d'Assise. Il y a des béatitudes heureux. Et il dit ceci. Bienheureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, car le royaume des cieux leur appartient. Et il commente. Il y en a beaucoup qui sont férus de prières et d'offices, et qui infligent à leur corps de fréquentes mortifications et abstinences. Ce sont des pauvres, selon la chèvre en tout cas. Et il ajoute, mais pour un mot, qui leur semble un affront, ou une injustice, envers leur cher moi, ou pour tel ou tel objet qu'on leur enlève, les voilà aussitôt qui se scandalisent et perdent la paix de l'âme. Ceux-là n'ont pas le véritable esprit de pauvreté. Car celui qui a le véritable esprit de pauvreté se hait lui-même et chérit ce qui le frappe sur la joue. On peut être très pauvre et très susceptible. Hein? Voilà, et je pense que l'esprit de pauvreté pour lui, c'était cet abandon à Dieu, où la pauvreté matérielle jouait un rôle clé, mais où ce n'était pas le tout, et l'humilité était encore peut-être plus importante. Donc, cette joie, cette louange, la pauvreté, et puis, dernier point, l'esprit d'amour. Bien sûr que toutes les spiritualités chrétiennes sont comme enracinées dans l'amour de Dieu. Mais si vous trouvez une spiritualité chrétienne dans laquelle l'amour ne tient aucune place, il faut que vous ayez dans la tête des clignotants qui se mettent en route, elle est suspecte. Parce que si vous lisez l'évangile et que vous ne voyez pas que le Seigneur allait accorder une certaine importance à cette dimension, c'est que là, c'est vos lunettes qu'il faut changer. Mais c'est quand même particulièrement vrai de François. Et son amour pour Dieu est un amour brûlant. Il est un passionné qui va s'exprimer donc dans la louange. Mais il va se manifester aussi dans son amour pour les hommes, y compris et particulièrement les lépreux, les bandits, et puis on pourra même dire la création dans son ensemble. Et les lépreux, c'est les pauvres d'entre les pauvres. C'est les gens qui non seulement sont pauvres, mais qui sont complètement rejetés, exclus. Il est très lucanien à certains égards. C'est ceux qu'on va, non seulement on va les garder, on va les parquer dans un endroit, la léproserie, où ils gênent personne et où ils ne sont pas dangereux, mais en plus, si jamais ils se déplacent, il faut qu'ils manifestent leur présence pour que tout le monde s'éloigne, etc. C'est vers les plus petits des frères humains qui se tournent particulièrement, et même vers les ennemis. Rappelez-vous, aller trouver les musulmans à l'époque des croisades, c'est pas courant. Et aller prêcher l'évangile au sultan, voilà. Ça demande non seulement du courage, mais ça, en dehors du courage, ça demande, je dirais, une tournure d'esprit qui était impensable à l'époque, parce que la croisade, elle était encouragée, bénie par le pape, par le pouvoir de l'Église, et par des très grands saints. Quand vous voyez des gens comme Saint Bernard, dont on a parlé tout à l'heure, vous lisez des textes de Bernard sur l'amour de Dieu, c'est génial. Ça ne viendrait pas à l'idée de dire que Saint Bernard n'était pas rempli de l'esprit, etc. Il n'empêche que ce même Bernard prêche la croisade. Vous dites qu'il y a des courts-circuits quelquefois. Ça fait partie de notre humanité, je crois, ces courts-circuits. Mais ça veut dire que, qu'à la même époque, des gens aient l'idée d'aller parler avec l'ennemi, c'est quand même quelque chose, je crois, tout à fait remarquable. La vocation franciscaine va souligner le pardon, va souligner la miséricorde. Et j'ai l'impression qu'elle enveloppe tous les humains dans la création, mais les humains quand même aussi particulièrement, d'une sorte de tendresse universelle. Il y a chez François, et dans l'esprit franciscain, une sorte de bienveillance universelle. C'est la tendresse devant le lépreux, devant l'abominable individu, devant le petit oiseau, devant le soleil, devant la création de Dieu, etc. Et donc alors qu'on pense qu'à étriper les musulmans, ben voilà, c'est cette ligne, je dirais, de la non-violence de l'évangile. Et François souligne très fortement que cette attention aux autres, elle doit être vécue dans l'Église et elle doit être vécue dans le fonctionnement de la fraternité. Alors je vous avais dit que c'est en s'adressant à l'évêque d'Assise, alors qu'il est malade, hein, il est sur son lit de mort, je pense, et c'est en s'adressant à l'évêque d'Assise qu'il ajoute à son cantique des créatures la strophe « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies, heureux s'ils conservent la paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés. » Et puis il y a un très beau texte à un ministre, donc un responsable provincial, hein, qui avait des problèmes avec certains frères. Ça arrivait, vous voyez. Il n'y a pas que dans nos églises qu'il y a quelquefois des problèmes. Ça, pas à Saint-Loup, là, je pense que vous n'avez pas de problème entre vous, jamais. Mais voilà, pour la foi ou par malheur, ça pourrait arriver que la sœur supérieure, enfin je parle la directrice, hein, je l'ai appelée prieur, tout à l'heure, à tort, par projection de relis, écoute cela. Il écrit ceci à ce ministre. Aime ceux qui te causent ces ennuis. N'exige pas d'eux, sauf si le Seigneur t'indique le contraire, un changement d'attitude à ton égard. C'est tels qu'ils sont que tu dois les aimer, sans même vouloir qu'ils soient à ton égard meilleurs chrétiens. Cela sera pour toi plus méritoire que la vie en ermitage. C'est vrai que, quand même, hein, c'est souvent plus dur de vivre avec les frères et les sœurs que de... Voici à quoi je reconnaîtrai que tu aimes le Seigneur et que tu m'aimes, moi, son serviteur et le tien. Si n'importe quel frère au monde, après avoir péché autant qu'il est possible de pécher, peut rencontrer ton regard, demander ton pardon et te quitter pardonné, On pourrait dire, c'est déjà pas mal. Mais il va plus loin. S'il ne te demande pas pardon, demande-lui, toi, s'il veut être pardonné. Et même si après cela, il péchait encore 1000 fois contre toi, aime-le plus encore que tu m'aimes. Et cela, pour l'amener au Seigneur, et toujours pitié de ses malheurs. Voilà, c'est quand même le genre de... Vous voyez que c'est pas un administrateur, hein. Mais vous voyez que c'est un saint, quand même. C'est ça. Alors, pour conclure, avant de lire un dernier texte pour conclure, hein, il me semble qu'au cœur de cette spiritualité, de cette attitude franciscaine, il y a une spiritualité de la volonté et de l'affection. Je dis de la volonté parce qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Il va y avoir, même intellectuellement, opposition, on pourrait dire, entre les deux ordres, franciscains et dominicains. Ils ont la même, ils sont tous les deux des ordres mendiants, tous les deux des ordres de prédicateurs, tous les deux se ressemblent au fond. Sauf que, il va y avoir une différence. Il va y avoir des théologies, parce que bientôt il va y avoir des grands théologiens. Chez les dominicains, vous allez avoir saint Thomas d'Aquin. Rien. Chez les franciscains, vous allez avoir saint Bonaventure. Mais dans les deux cas, il y a quand même une grande différence. La spiritualité dominicaine, et on va en parler la prochaine fois, avec Maître Eckhart, Toller, les grands beaux hommes, elle est intellectuelle, fondamentalement. C'est l'intellect qui est premier. Dans la spiritualité franciscaine, c'est la volonté et l'affection qui sont premiers. Hein, deux sensibilités, et vous verrez, ça peut donner des gens énormes, j'ai envie de dire, des deux côtés. C'est pas l'un ou l'autre. Hein. Mais là, c'est vraiment ça. L'essentiel de cette spiritualité, dans sa source, comme dans l'influence immense qui a été la sienne, c'est la vie évangélique pure et simple. C'est imiter Jésus-Christ. Jésus a vécu, François a vécu ce que Jésus a enseigné, et il a vécu au point qu'il a pu être présenté par la piété comme un alter Christus, un autre Christ. Et d'une certaine manière, on peut dire, quand même, ça c'est énorme, c'est trop, etc., etc. Oui, mais en même temps, c'est à ça qu'on est appelé. Hein? Le serviteur, il n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple parfait, il sera comme son maître. Hein? Devenir des petits Christ, c'est à ça qu'on est appelé. Alors, je ne vous dis pas que ça implique de vous habiller d'une certaine manière et de partir sur les routes, etc. Non, mais devenir, en tout cas, un autre Christ, je crois que c'est ça. Mais alors, l'histoire de son ordre montre bien qu'il est difficile de rester sur les sommets. Et finalement, l'ordre franciscain est très exact, suit très exactement les lignes, je dirais, de tous les mouvements de réveil. De toutes les religions même, hein, parce qu'on pourrait dire dans le judaïsme la même chose, je crois. Mais, hein, vous avez le mouvement, le jaillissement magnifique, et puis après la période de jaillissement, vous avez une période de fixation, de durcissement, d'installation, d'institutionnalisation, et puis de déclin. Et puis vous allez avoir, tout au long de l'histoire, depuis l'époque, hein, jusqu'à aujourd'hui, vous allez tout le temps avoir des réveils, il y a des retours à la source de l'intuition première. C'est pour ça que si vous regardez les différents types d'ordre franciscain, c'est presque aussi compliqué que les églises protestantes. C'est-à-dire, vous avez les capucins, plein, et à chaque fois, c'est pas pour le plaisir de faire quelque chose de neuf, hein. C'est un retour, un renouveau de la source. Pour finir, je voudrais lire ce dernier texte. Alors, il me plaît beaucoup sous cette forme-là, parce que c'est un texte que beaucoup de gens connaissent. Vous avez sûrement entendu ce texte. Mais alors, il y a eu, comme souvent, avec les grands, des traditions qui se sont développées. Et... Il y a des moments où, franchement, la version qu'on donne me paraît relever plus de la pathologie que de la spiritualité. Ça, c'est le texte initial. C'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul. Hein. Je veux dire, c'est le texte dans l'esprit franciscain réel. Un jour à Sainte-Marie, donc, toujours là, je commente un peu parce qu'il y a des choses pas, toujours, qui ne tombent pas sous le sens. Sainte-Marie, donc, c'est à la chapelle chez eux. Le bienheureux François appela Frère Léon, on l'entend tout le temps, il est toujours présent, c'est le scribe, le compagnon, etc. Et lui dit, Frère Léon, écris. Et lui répondit, voilà, je suis prêt. Écris, dit-il, quelle est la vraie joie. Un messager vient et dit que tous les maîtres de Paris sont venus à l'ordre. Ça veut dire que tous les théologiens de la Sorbonne, tous les grands théologiens parisiens sont devenus franciscains. Écrit, ce n'est pas là la vraie joie. De même, tous les prélats d'Outremont, archevêques et évêques, donc tous les grands dignitaires, sont aussi rentrés dans l'ordre. De même, le roi de France et le roi d'Angleterre, ce sera un beau succès quand même, écrit, ça n'est pas la vraie joie. De même, mes frères sont allés chez les infidèles, il a déjà fait ça, et les ont tous convertis à la foi. De même, je tiens de Dieu une telle grâce que je guéris les malades et fais beaucoup de miracles, je te dis qu'en tout cela n'est pas la vraie joie. Mais alors, qu'est-ce que c'est cette vraie joie? Alors, il raconte. Je reviens de Pérouse, et par une nuit profonde, je viens ici, à l'endroit de la communauté. Et c'est un temps d'hiver, boueux et froid, au point que des pendeloques d'eau froide congelée se forment aux extrémités de ma tunique et me frappent toujours les jambes, du sang jaillit de ces blessures. Vous voyez, c'est l'ambiance. Et tout en boue et froid et glace, je viens à la porte. Et après que j'ai longtemps frappé et appelé, un frère vient et demande qui est-ce. Moi, je réponds, frère François. Et lui dit, va-t'en, ce n'est pas une heure, descendre pour circuler, tu n'entreras pas. Et à celui qui insiste, il répondrait à nouveau, va-t'en, tu n'es qu'un simple et un ignare, en tout cas tu ne viens pas chez nous. Nous sommes suffisamment nombreux et nous sommes tels que nous n'avons pas besoin de toi. Et moi je me tiens à nouveau debout devant la porte et je dis, par amour de Dieu, recueillez-moi cette nuit. Et lui répondrait, je ne le ferai pas. Va à l'hospice des lépreux et demande là-bas. Je te dis que si je garde patience et ne suis pas ébranlé, quand cela est la vraie joie et la vraie vertu, et le salut de l'âme. Alors vous avez des versions, peut-être que vous avez entendu déjà, vous en avez dans l'oreille, où finalement on a l'impression que la vraie joie, c'est un peu maso, c'est de la souffrance. Et c'est pas là, c'est pas la question là. C'est pas la souffrance qui est la vraie joie, hein. C'est le fait de garder la joie et de garder la paix, même quand rien d'extérieur n'est porteur. Parce qu'on voit à d'autres endroits, finalement, il est très enthousiaste, très joyeux, très reconnaissant pour tous les dons qu'il a reçus, etc. Voilà, c'est un texte que je trouve aussi très beau. Alors, je termine en vous commentant rapidement la petite bibliographie. Alors, deux introductions excellentes. Éloi Leclerc. Alors, je reparlerai d'Éloi Leclerc tout à l'heure. Tout ce qui est d'Éloi Leclerc est excellent. Mais là, il y a une excellente introduction. François d'Assise, Le retour à l'évangile, qui est un très beau texte qui montre bien l'insertion de François et l'esprit franciscain dans le monde économique, sociologique, dans le contexte historique de son temps. Et puis Yvan Gaubry, voilà, vous savez, il y a une magnifique collection qui malheureusement est ancienne, qui n'existe plus guère aujourd'hui. Alors, on réédite, mais en moins bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens d'entre nous, il y avait une collection au Seuil qui s'appelait Maître spirituel. Ou alors vous en aviez sur tout le monde, hein, sur Saint Thomas, Saint François, sur Calvin, sur Luther, etc. Et vous aviez un mélange de textes excellents écrits par un grand spécialiste en général de la personne. Vous aviez un rassemblement de textes de l'auteur et illustrés par énormément de... Alors soit des gravures d'époque, soit tout un tas de choses. Maintenant on ne le trouve plus, sauf d'occasion je pense, mais... Vous pouvez sans doute le trouver autrement, c'est réédité, je crois que c'est au CERF, mais alors il y a juste le texte, mais c'est très bien. Alors, des biographies, vous en avez plein, des vieilles qui datent du Moyen-Âge, des modernes, etc. Julien Green, grand romancier, a écrit une très belle je trouve, et très sérieuse biographie, qui existe maintenant en livre de poche d'ailleurs, hein, Frère François. Voilà, moi je crois que c'est une des plus accessibles facilement, mais il y en a beaucoup d'autres. Les écrits de François, alors ils existent de plusieurs manières. Vous en trouvez presque dans toutes les collections, mais il y en a beaucoup de collections où vous trouvez ça en poche. Vous avez aux éditions franciscaines ce petit bouquin. Le taux, là, c'est le symbole de François. Hein, mais les écrits de Saint François et de Sainte Claire. Alors vous voyez, ça fait quand même finalement beaucoup plus de textes qu'on imagine souvent au départ. C'est remarquable, vous pouvez trouver ça dans les grosses éditions annotées qui coûtent relativement cher et qui sont pour les travaux sérieux. Et puis vous avez beaucoup plus accessible d'autres traductions. Et puis alors, sur l'esprit franciscain, alors vous avez plusieurs choses magnifiques. D'abord, vous avez les Fioretti. Les Fioretti, c'est pas d'histoire. Les Fioretti, c'est la légende dorée franciscaine. Mais c'est beau comme c'est pas possible. Et c'est bourré de sens. Alors ne prenez pas ça pour de l'histoire. Hein, voilà, c'est la légende franciscaine dans ce qu'elle a de beau, de léger, de plein de sens. Voilà, mais uniquement ça. Dans le genre génial, à ne pas rater, vaut le détour. Éloi Leclerc, donc c'est un franciscain français qui vient de mots. Qui est mort il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe. Mais peut-être que je vais en faire trop vite, je ne sais pas, je crois pas. Il a écrit pas mal de choses, toutes sont bien, mais le chef-d'œuvre par lequel il a été rendu célèbre, c'est Sagesse d'un pauvre. Ça, c'est vraiment un bouquin qui mérite. On a fait déjà des retraites, rien qu'à partir de ce bouquin. Il raconte, c'est un roman, entre guillemets, hein. Il raconte toute cette période dont je viens de vous parler, douloureuse, où François revient, déprimé, déchiré, etc. Et il va dans sa montagne de l'Alverne, et là, il est face à Dieu. Et c'est toute la nuit de François. Toute cette bagarre intérieure avec Dieu, et la manière dont finalement, il va retrouver la lumière. C'est d'une profondeur, d'une intelligence magnifique. Et vous avez les paroles de François, prêtées à François, enfin. L'événement historique est réel, mais là, il réanime, je dirais, il romance. Hein. Mais voilà, c'est tout à fait génial, et on peut très facilement, en fait ça, faire des retraites en prenant uniquement ce livre. Je ne sais pas si ça est déjà arrivé ici, à Saint-Loup, mais en tout cas, ce serait facile. Alors, vous avez un autre livre, vous avez beaucoup de livres très beaux d'Éloi Leclerc. Vous en avez un autre très intéressant, c'est le Exil et tendresse, et c'est toute cette... C'est quand il va en croisade, quand il va rencontrer, etc. Il y a beaucoup de belles choses. Et puis alors, un autre livre tout à fait remarquable, plus sérieux, pas au sens que les autres ne sont pas sérieux, mais plus exigeant. Ah oui, pardon, j'oubliais un Éloi Leclerc que je ne vous ai pas mis sur le papier. Un autre, c'est Le Chant des Sources, qui est un très beau petit texte, qui est une relecture du Cantique des Créatures que je vous ai donné. Hein, c'est un commentaire du Cantique des Créatures. Puis alors, vous avez un autre texte très bien, un livre alors, de Thaddée Matura. Thaddée Matura, c'est un franciscain qui est un théologien et qui a écrit François d'Assise, auteur spirituel, le message de ses écrits. Et c'est un livre assez remarquable. C'est une étude sur la théologie et la spiritualité de François. Et on s'aperçoit que celui qu'on croyait sympathique, touchant, émouvant, etc., etc., uniquement à cause de sa biographie, au fond, moi j'avais un peu l'impression que, à part quelques beaux textes, mi-légendaires, mi-réels, il y avait la biographie, puis c'était tout. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une densité théologique tout à fait remarquable. Alors, si vous êtes courageux ou passionné, on tombe vite amoureux de François. Il faut lire le gros livre dont je vous parle, hein, François d'Assise, auteur spirituel, etc. Et si je ne me trompe, c'est Thaddée Matura le même qui a écrit le Prier 15 jours avec, vous savez, cette collection, il y a beaucoup de bonnes choses, François d'Assise. Et rien que là-dedans, il ouvre, je trouve, des portes que moi j'avais jamais vues avant que ce soit lui qui montre ça. Voilà.